BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin et Laurent Valdiguier.
C'était l'ennemi public numéro 1. L'homme le plus recherché de France, Mohamed Amra, a donc été arrêté hier en milieu d'après-midi en Roumanie. Fin d'une cavale de 9 mois pour celui dont l'évasion avait été minutieusement préparée. Une évasion, vous vous en souvenez, sanglante, le 14 mai dernier, durant laquelle deux agents pénitentiaires de 34 et 52 ans avaient été tués. Alors comment Mohamed Amra a-t-il été traqué? Comment a-t-il pu se cacher si longtemps? On fait le point avec Pierre-Louis Bousset.
Menotté, l'air hagard et les cheveux teintés en roux, Mohamed Amra vient d'être interpellé sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. L'homme le plus recherché de France, arrêté par la police roumaine dans un quartier de la capitale Bucarest, après plus de 9 mois de cavale.
D'un côté, il y a un volontarisme, des mois et des mois d'enquête. Croyez-moi, très régulièrement, on me faisait le point sur cette enquête-là. Vous n'imaginez pas les techniques, vous n'imaginez pas les efforts qui ont été déployés sur un individu qui était très très dangereux.
Pour retrouver Mohamed Amra, une notice rouge avait été émise par Interpol à la demande des autorités françaises. Selon le parquet de Paris, il a été identifié grâce à un travail de coopération entre l'Office central de lutte contre le crime organisé et la police roumaine. Une coopération dont s'est félicité le président de la République.
C'est un formidable succès. Je veux d'abord remercier les collègues roumains et tous les collègues européens et féliciter les services enquêteurs français qui, depuis des mois, traquaient Mohamed Amra. Et j'ai une pensée et beaucoup d'émotion pour les familles.
Un soulagement aussi pour le père d'Arnaud Garcia, agent pénitentiaire tué lors de l'évasion de Mohamed Amra.
Je suis totalement ravi, content. On a une pression en moins par rapport à ce qu'on a pu avoir depuis plus de 10 mois. Maintenant, on va arriver dans la phase judiciaire. Donc, j'en suis ravi, quoi.
Pour l'heure, le fugitif reste incarcéré dans ce centre de détention en Roumanie.
Alors, comment cette traque a-t-elle été organisée? Comment Mohamed Amra a-t-il réussi à se cacher pendant si longtemps? On va essayer de comprendre tout ça avec nos invités. Maxime Brandstetter du service police-justice de BFM TV qui nous accompagne. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous. Jean-Pierre Colombiès, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ancien policier de la police judiciaire et vous avez bon nombre d'affaires à votre actif. Vous allez nous aider à comprendre tout ça. Mourad Batik, bonjour. Avocat pénaliste au barreau de Paris. Merci d'être là également. Et puis Jérôme Poirot qui nous accompagne aussi pour comprendre toute cette affaire en consultant BFM TV, ancien adjoint à la Coordination nationale du renseignement. D'abord, Jean-Pierre Colombiès, j'aimerais bien vous entendre sur la manière dont s'est passée cette arrestation hier. C'était quelque chose de très minutieux, de très programmé. Selon vous, tout était pesé?
Bien sûr, oui. Là, ce qui a été à peine évoqué mérite quand même qu'on s'y attarde un peu. Il y a une coopération international qui se met en place dans l'espace Schengen et qui a débouché notamment sur la création de dispositifs comme Europol et qui permet l'envoi d'officiers de liaison dans les pays où sont supposés être en résidence les individus qu'on recherche. Et bon, le cas présent c'est Amra. Donc il y a en amont, mais vous savez, on n'arrive pas à ce type d'interpellation sans un travail en amont qui est considérable, comme ça a été dit. On n'est pas dans une affaire banale là, on est dans une affaire d'assassinat en bande organisée, un véritable commando, c'est exceptionnel. On n'avait jamais vu ça auparavant. Deux gardiens de prison, enfin deux membres de l'administration pénitentiaire qui sont exécutés. Il n'y a pas d'autre mot. Et on a droit à une structure de criminels qui n'a peur de rien. Donc ça nécessite un travail en amont très précis, très précautionneux, à la fois parce qu'on va s'attaquer à eux à un moment donné, mais parce qu'il faut qu'il n'y ait aucune fuite. Il faut s'assurer d'une collaboration pleine et entière des services qui vont être le relais des informations qui vont leur être transmises par les services de police français. Et ça vaut également pour les services espagnols, puisqu'il y a eu une interpellation concomitante. Donc tout ça nécessite la mise en place de quelque chose qui échappe un petit peu, je dirais, à la vision de l'opinion publique, à savoir un relationnel à la fois policier, de la justice aussi. Il ne faut pas oublier que l'appareil judiciaire est complètement investi dans cette traque et dans la coordination de l'interpellation qui, elle, est le fruit des effectifs locaux. Ce sont bien les Roumains qui ont interpellé cet individu, ce suspect.
Cette interpellation, d'ailleurs, Maxime, sans violence, sans tir, c'est-à-dire qu'il savait exactement ce qu'il faisait. On était en plus dans un lieu public, donc il fallait faire ça avec une certaine habileté.
Oui, c'était près d'un centre commercial en Roumanie, dans la capitale, à Bucarest, et c'était vers 15h que les policiers roumains ont décidé de l'interpeller dans la rue. Vous l'avez dit, il n'y a eu aucun coup de feu tiré, il n'a pas non plus été blessé. D'après nos informations, il a été interpellé seul. On n'a pas forcément d'éléments sur le fait est-ce qu'il était armé ou pas, est-ce qu'il y a eu une prise de risque. Ce qu'on a vu, ce sont ces vidéos diffusées par des témoins de la police roumaine qui le tient avec lui, avec ses cheveux colorés. Une interpellation effectivement dans le calme, sans blessure ni tir.
On va commenter cette photo évidemment, oui. Laurent.
Non, mais ce que disait Jean-Pierre Colombia, c'était pas de fuite. Et c'est vrai qu'il y avait pas de fuite puisque Amra ne s'attendait pas à être arrêté.
Absolument, oui. C'est
donc
fondamental.
Effectivement, Amra, comme le dit Maxime à l'instant, et les policiers roumains lui sont tombés dessus. Sans, je crois qu'il n'était pas armé, mais enfin bon, en tout cas sans qu'il ait eu le temps de réagir. Donc c'est vrai que l'effet de surprise est a marché à fond. Ouais.
Il le savait depuis quand qu'il était en vie? Parce que cette question, elle s'est posée. On s'est tous demandé, est-ce que Mohamed Amra est encore en vie ou non? Depuis quand, Laurent, il pouvait avoir cette idée qu'il était encore en vie?
Vous savez, au départ de cette évasion, il y avait plusieurs hypothèses, notamment celle selon laquelle il aurait été enlevé par un gang rival pour l'éliminer. Ils y ont jamais vraiment cru, les policiers. Ils savent qu'il est en vie depuis des mois parce qu'ils savent, ils ont compris, les enquêteurs, qu'il se tairait. D'ailleurs, la preuve de tout ça, c'est que ce matin, sans attendre, ils ont arrêté au moins 10 personnes. En réalité, ils avaient le commando. Ils étaient derrière eux. Les arrestations de cette nuit et de ce matin le prouvent. C'est la décision du juge d'instruction, qui est en charge de tout ça, qui manifestement a été de dire « on attend d'attraper Amra ». Parce que c'est vrai que les policiers auraient pu attaquer, puisqu'ils les ont identifiés, auraient pu depuis certainement des semaines arrêter les autres. Ils ont décidé, et ça c'est une décision forte, ils ont décidé de commencer par Amra. Et là du coup tout dégringole dans la foulée.
Mais quand les choses marchent bien, voire même très bien, faut pas hésiter à le dire, c'est totalement exceptionnel ce à quoi on assiste. Une telle coordination au niveau national et international, de mon sens, c'est une des premières fois qu'on assiste à ça, quoi. Et c'est tant mieux. Après, il y a une forme de mise en scène aussi, il faut pas se le cacher. La photo entre Amra et les deux policiers roumains, ça rappelle un peu le chapeau, hein. On a un peu droit à cette... Mais tant mieux. Tant mieux si ça peut servir de message subliminal à ceux qui auraient envie de faire une cavale sans vraiment en avoir l'assise, c'est pas plus mal, quoi.
Je voudrais qu'on...
Il faut peut-être souligner aussi des interpellations qui se passent bien, alors même que les complices d'Amra savaient qu'ils avaient été interpellés, bien parce sûr. Que c'est le risque d'arrêter une telle figure à l'étranger. Les photos ont été communiquées immédiatement par des témoins en Roumanie. C'était prendre le risque que tous ces complices se disent « oh là là, il faut partir ». Et donc, ces 10 interpellations, visiblement, et fonctionnent.
On va revenir longuement sur ces interpellations un tout petit peu plus tard, parce qu'on va essayer de comprendre effectivement tout ce réseau Amra et jusqu'où ça peut aller. Je voudrais juste avant, parce qu'on l'a vu cette photo, et il faut quand même la commenter, la photo de Mohamed Amra. On va la revoir avec ses cheveux couleur carotte, il s'est grimé comme ça. Alors, à la fois Mourad Batik et Jérôme Poirot, je voudrais vous entendre sur cette photo. C'est le meilleur moyen de se dissimuler ?
Non, c'est grotesque. Enfin, on le reconnaît immédiatement. Les Roumains ne sont pas réputés pour avoir les cheveux roux. C'est comme s'ils s'étaient mis un gyrophare sur la tête. Enfin, si vous voulez, dans une filature, il est plus facile à suivre que... Donc il ne s'est pas fondu dans la masse.
C'est vrai.
Mais en complément de ce qui a été dit, je pense qu'on peut souligner à la fois la grande naïveté d'Amra et de ses complices, et leur grande bêtise. Parce que Amra, peut-être pensait-il être tranquille en Roumanie, c'est ne rien comprendre à toute la puissance de la police judiciaire et à la puissance de coopération entre police et justice au sein de l'Union européenne que vous avez décrit. Et puis, comme le dit Maxime Brancheter, ses complices savent depuis hier qu'Amra est arrêté, ils ne pensent pas à prendre la fuite. Donc, on est face à, évidemment, des gens extrêmement déterminés d'une violence inouïe, mais des gens qui sont à la fois naïfs et bêtes.
Rod Batik, sur l'apparence de Mohamed Amra hier quand on l'interpelle.
C'est très surprenant. C'est très surprenant parce qu'on pouvait effectivement attendre de ce commando qui a commis l'irréparable dans une barbarie extrême. On pouvait s'attendre à ce qu'il soit mieux organisé, à ce que effectivement on retrouve Mohamed Amra dans un autre pays, vêtu différemment, déguisé différemment, et à s'attendre à un niveau de professionnalisme autre. On se rend bien compte aujourd'hui que effectivement penser être roux et penser que ça suffit à brouiller les pistes, on voit bien la limite de ces individus qui ont organisé ça. C'est assez contradictoire. contradictoire, et c'est contradictoire avec le modus operandi, c'est contradictoire avec la violence, mais il faut aussi penser qu'une cavale, c'est très compliqué. Une cavale, ça coûte cher, une cavale, c'est compliqué.
Il a tenu 9 mois.
Il a tenu 9 mois, ce qui est déjà extraordinaire, vu le niveau d'investigation et d'enquête qu'il y avait au-dessus de sa tête. Mais on voit aussi que voilà, la cavale, c'est compliqué, qu'ils finissent par commettre des erreurs grossières. Et la première, c'est la dissimulation.
Nous, on tient 48 heures. Hein. Avec non, mais c'est vrai.
Avec tout votre savoir-faire à tous, puisque ça.
Avec les moyens qui ont été mis, y compris numériques, d'enquête, de filature, le nombre de policiers, je vous trouve un peu sévère quand vous dites que sous prétexte qu'il est roux, tout ça était folklorique. Il a tenu 9 mois.
Et il est passé
et
de pays en pays.
Sur ce plateau, en mai, on disait il sera arrêté dans 2 jours. Hein.
Mais la réalité, c'est qu'il aurait peut-être pu être arrêté avant, mais effectivement, il y avait l'idée d'un coup de filet global, et peut-être que l'appréhender il y a 3, 4, 5 mois, c'était laisser la possibilité à certains de fuir. Il y a aussi, à mon avis, une lecture...
Je pense que la priorité des enquêteurs, c'était justement Mohamed Amra. Peut-être que c'est les interpellations d'aujourd'hui qui auraient pu être arrêtées avant, mais que leur grosse priorité était de retrouver Mohamed Amra. Et comme il se faisait discret, on voulait laisser toutes les possibilités de communication.
Ce qui, moi, me surprend plus, avec un regard moins connaisseur que vous, c'est que là, il était en train d'aller, visiblement, dans un centre commercial. On aurait pu imaginer qu'il se cache. Au maximum, on va pas forcément dans un centre commercial, lieu public où il y a des caméras de vidéosurveillance. On aurait pu imaginer ça. Est-ce que c'est illogique de le penser comme ça ou pas ?
Non, oui et non. Ça peut s'expliquer par une forme d'excès de confiance. Bon, faut rappeler quand même que quand il s'évade, on a indiqué qu'il avait dans sa cellule tout un nombre de moyens de communication, téléphone. Une sorte de liberté d'action et d'organisation totale. Et il s'est probablement dit, j'essaie de me mettre à sa place. Hein ? Finalement, bon, ça n'a pas été si difficile que ça d'organiser une telle opération. Personne n'aura l'idée d'aller venir me chercher en Roumanie. Je suis tranquille. La Roumanie, c'est loin de la France. C'est pas tout à fait la même frontière. Et on peut s'en sortir comme ça. Sauf que, il a oublié qu'il y avait une nécessité. Ça a été dit. Une cavale, c'est une logistique. Donc, faut quasiment tout payer en espèces. Faut avoir du cash en quantité. Un réseau sur place dense. Et à l'évidence, ils ne l'avaient pas. Ils sont pas non plus sur une autre planète, quoi. Ils sont sur la planète Europe aujourd'hui. C'est un espace qui est contrôlé, où il y a des relais quasiment partout. Donc, échapper aux mailles du filet, à un moment donné, ça casse. Il a des amis, il a des relations, il a une famille. Donc, à un moment donné, l'affaire était tellement médiatisée, elle est tellement énorme, que tout ce petit monde a été mis sous surveillance. Il est évident qu'à un moment donné ou à un autre, dans vos filets, vous recrachez un petit poisson qui vous amène au plus gros.
Je crois que d'après ce qu'on sait, qu'il a justement pas commis l'erreur de communiquer avec des proches et sa famille.
Les autres, oui, peut-être.
Ils ont été extrêmement surveillés. D'après ce qu'on sait, ils ont réussi à identifier un mouvement
bancaire,
un mouvement de personnes qui pouvait être Mohamed Amra vers la Roumanie, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le remonter. Mais faut quand même souligner qu'il a réussi à traverser l'Europe, parce que effectivement, un centre commercial en Roumanie, il peut y avoir des caméras de vidéosurveillance, c'est imprudent, mais d'après ce qu'on sait, il avait l'air de se cacher en France, en tout cas pour la fin de sa cavale. Ça veut dire qu'il a dû sortir de France, donc il faut passer par des routes où il y a des caméras de vidéosurveillance, il y a des péages, il y a des contrôles, où je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui auraient été capables de le reconnaître, même avec les cheveux.
Nous n'avons pas les frontières les plus hermétiques du monde.
Non, mais il faut quand même... Si on parle de caméras de vidéosurveillance dans un centre commercial en Roumanie, on peut supposer que c'est risqué quand même de
se cacher en France. Ça veut dire complicité, ça fait partie de ce qu'on va décrypter avec vous dans un instant, et on verra les images exclusives des arrestations qui ont eu lieu cette nuit, notamment à Rouen. Il y a une des hypothèses aussi, Laurent, que vous avanciez, je vous entends ici dernières heures, qui était l'hypothèse d'une chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'il n'était peut-être là qu'en train de se dissimuler, mais qu'il était peut-être prêt à aller plus loin.
C'est vrai que les enquêteurs français, quand ils ont suivi sa trace en Roumanie, ils se sont dit, pourquoi Bucarest ? Et puis, pourquoi Bucarest ? Pourquoi un mouvement ? Parce qu'apparemment, Amra était terré depuis des mois, depuis le 14 mai, était terré dans sa zone. Ce qui est toujours l'hypothèse la plus fréquente, c'est de se cacher chez les siens. Et sans mouvement, puisque sinon, ils l'auraient arrêté à ce moment-là. Donc, tout d'un coup, ils ont vu, comme disait Maxime, un mouvement, mouvement de voiture, on pense, qui a atterri à Bucarest. Ils se sont renseignés auprès des Roumains. Il avait loué apparemment pour une longue période un appartement. Longue période, ça veut dire qu'il n'allait pas partir tout de suite depuis Bucarest. Donc ils se sont dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il fait à Bucarest ? Donc une des hypothèses à ce stade, ça sera confirmé ou infirmé par l'enquête, une des hypothèses, c'est qu'il serait allé à Bucarest pour faire de la chirurgie esthétique. Puisque les enquêteurs le soupçonnent Alors peut-être c'est ses cheveux qui leur ont aussi fait dire ça. Je soupçonne d'avoir aussi une filière de faux papiers qui est toujours aussi en cours d'investigation pour pouvoir éventuellement prendre la fuite beaucoup plus loin que Bucarest. Donc c'est une de leurs hypothèses à ce stade. Et ils le vérifieront, c'est l'enquête sur place, puisque jusqu'à présent, évidemment, ils ont surtout pas bougé tant qu'il n'était pas arrêté. Ils vérifieront s'il a pris des contacts, d'abord s'il avait des moyens de paiement avec lui, dans sa cache, on saura s'il avait du liquide ou pas, et s'il avait pris des contacts pour éventuellement se refaire le visage et ensuite partir beaucoup plus loin.
Alors justement, comment va se passer la suite de l'enquête? Qu'est-ce qui va se passer pour lui d'un point de vue judiciaire? Comment on va s'organiser toutes les opérations qui vont permettre de remonter son réseau? Est-ce qu'on peut d'ailleurs remonter l'intégralité de son réseau? On va se poser toutes ces questions dans un instant. Vous restez avec nous, à tout de suite.
BFM Radio.
h 22, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite d'affaires suivantes, et on continue de tirer les fils de cette affaire Mohamed Amra. Jusqu'où vont pouvoir remonter les enquêteurs? Une information BFM TV, une dizaine de gardes à vue sont en cours, une dizaine de personnes ont été interpellées à l'étranger et en France ces dernières heures. Jusqu'où ont été ces complicités? On va s'interroger sur tout cela avec nos invités dans un instant, mais d'abord, deux de ces interpellations ont eu lieu au petit matin à Rouen. Boris Karlamov, c'est là que vous êtes pour BFM TV et vous avez pu assister, c'est un document BFM TV, à ces interpellations.
Absolument, Philippe, avec Bastien Moignoux qui m'accompagne ici en Normandie. Nous avons pu donc assister la nuit dernière à deux interventions de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Une toute première intervention aux alentours de 4h13 dans l'un des quartiers où a grandi Mohamed Amra à Rouen. Nous avons vu arriver devant nous une colonne d'agents de la BRI, une dizaine de policiers casqués, boucliers à la main, qui progressaient dans une rue extrêmement sombre et dans un épais brouillard avant de pénétrer dans un immeuble. Il y avait également des enquêteurs qui les suivaient, mais tous ces agents de la BRI sont rapidement ressortis de cet immeuble avant de quitter les lieux, si ce n'est pour revenir sur place une demi-heure après, un peu plus d'une demi-heure après, aux alentours de 5h13, toujours ce même quartier, mais à une adresse différente de la première, à quelques dizaines de mètres. Ils ont ciblé cette fois-ci un autre immeuble, toujours le même dispositif. Une colonne qui progresse dans la rue, des casques, des boucliers, puis une pénétration dans un appartement. Ces policiers de la BRI, ils sont restés pendant plusieurs dizaines de minutes à l'intérieur de cet immeuble. Ils sont ressortis, puis nous avons vu sortir trois enquêteurs accompagnés d'une personne qui avait été interpellée, un jeune homme. Une interpellation qui s'est faite sans incident. Il n'y a pas eu de coup de feu, ni même de cri. Un jeune homme qui n'a eu de cesse de regarder ses pieds lorsqu'il marchait, menotté, direction donc la voiture des enquêteurs avant de quitter Rouen. Une illustration donc la nuit dernière ici à Rouen de ce vaste coup de filet. Dans la soirée de samedi, puis dans la nuit, 10 personnes de l'entourage de Mohamed Amra ont été interpellées entre la France et l'Espagne. Et toutes ces personnes, eh bien, elles sont suspectées d'avoir participé à la préparation, à l'exécution de l'évasion, mais également d'avoir favorisé la dissimulation du fugitif. À Rouen, un homme de 24 ans a été interpellé, puis placé en garde à vue.
Merci beaucoup Boris Karlamov, Bastien Moignoux, pour ces images, ce document BFM TV qui nous dit beaucoup sur l'état d'esprit aussi des enquêteurs. Jérôme Poirot, quand on voit cette colonne de BRI, alors ils sont habitués aux interventions dangereuses, mais là ça veut dire qu'ils avaient anticipé que potentiellement face à eux, il y aurait peut-être de la résistance et une résistance dure.
Oui, oui, pour ce type d'individu, la tradition c'est de ne prendre aucun risque. Alors selon la disponibilité des forces et l'endroit où ça se passe, c'est soit le GIGN, soit le RAID, soit la BRI qui interviennent. Donc ils sont très entraînés pour ce type d'intervention. Ils en réalisent d'ailleurs souvent. Donc ils prennent évidemment des protections pour eux-mêmes. Ils sont lourdement armés. Et puis, dans une intervention comme celle-là, ils savaient où ils allaient et qui ils allaient chercher. Donc il y a eu évidemment des surveillances pendant probablement beaucoup de jours avant les interventions de cette nuit, pour s'assurer que la personne qu'on va aller arrêter est bien là le jour où on veut l'arrêter, de voir s'il n'y a pas de mouvement suspect, si on n'identifie pas à l'occasion de ces surveillances d'autres personnes qui sont recherchées, qui peuvent être des complices. Donc c'est une opération, comme la décrit Boris Karlamov, qui finalement apparaît très simple, sans aucune sans l'emploi véritablement, enfin pas d'armes à feu, à rien. Ça se passe très très bien parce que c'est très préparé en amont et puis parce que ce sont des forces spécialisées qui interviennent.
Ça pose évidemment beaucoup de questions. Maxime, vous nous disiez tout à l'heure, il a visiblement séjourné un bon bout de temps en France, Mohamed Amra. Alors ça nous interroge quand même sur le fait qu'il n'ait pas été repéré quand il était en France. Mais ça veut dire qu'il aurait pu potentiellement loger dans cet appartement qui a été visité ce matin par les enquêteurs. Quelles sont les hypothèses qu'on peut dresser ?
Alors, s'il est resté en France, l'hypothèse, elle est simple, c'est qu'il avait trouvé une ou plusieurs planques où il était très bien caché, où personne ne savait qu'il était là, et il avait construit un mur assez hermétique pour que l'information ne fuite pas. Il a peut-être dû avoir plusieurs planques, parce que parfois, c'est aussi une garantie de sécurité, même si tous les déplacements sont dangereux. Il en a fait les frais en se déplaçant en Roumanie, parce que, on le rappelle, il a interpellé peu de temps après être arrivé en Roumanie. Ça ne faisait pas longtemps qu'il y était. Donc voilà, après, où était-il caché ? Qui l'a aidé à se cacher ? C'est aussi le but de l'enquête qui est en train de se mener. C'est aussi le but de ces interpellations et des gardes à vue qui vont suivre. C'est d'essayer de comprendre qui l'a aidé, comment a-t-il fait, et de sanctionner ceux qui ont participé.
Comment il a vécu ?
Oui.
Faut de l'argent.
Il a vécu terré. De l'argent, oui, s'il est terré à boire de l'eau et manger des chips, ravitaillé, totalement planqué, ça, pour le coup, c'est pas la partie la plus chère de la cavale. Ce qu'il y a, c'est qu'il a des amitiés très fortes. Et puis c'est vrai que les 10 opérations de ce matin, sans coup de feu, ça nous montre un paradoxe. C'est que ce gang a mené une opération de caïd, parce que ça, c'était une opération de caïd, mais ça reste individuellement des petites frappes. Ils sont jeunes, ils n'ont jamais fait de braquage, de vol à main armée, d'attaque a priori. C'est des trafiquants de drogue, d'évreux, c'est des trafiquants de stupes. Donc pris isolément le matin à l'aube, ils se sont arrêtés sans tirer. C'est pas des braqueurs chevronnés à l'ancienne.
Non, probablement pas. Non, probablement pas. Mais franchement, moi, je quand je vois ces images et puis qu'on a les informations qui remontent, moi, je tire vraiment un coup de chapeau à ceux qui ont assuré les repérages, les enquêtes de voisinage en hyper discrétion, les surveillances, parce qu'il a bien fallu en faire. On fait pas une opération comme ça, on donne pas un top interpellation sur 6 à 10 personnes sans que vous soyez pas certain de votre coup. Du moins, vous ayez réduit au maximum les risques de fuite. Déjà, on a de fuite au niveau de la procédure, et puis d'être repéré au moment des interventions. N'oublions pas que derrière les colonnes, vous avez aussi des enquêteurs, des OPJ, qui eux vont rédiger la procédure. Concrètement, vous avez une colonne d'intervention de la BRI ou d'une autre force d'intervention, là pour le coup c'est la BRI, mais avec, vous avez aussi des OPJ qui eux vont rédiger la procédure. Ça, on le fait régulièrement.
Jérôme Poirot, comment il a pu passer sous les radars s'il est resté plusieurs mois en France ?
Comme le dit très bien Laurent Vadeillet, enterré, sans moyens de communication modernes, avec des complices suffisamment sûrs et fidèles pour que, d'abord, ils ne parlent pas, qu'ils ne le trahissent pas, et puis qu'ils aient eux-mêmes des comportements qui se rapprochent le plus possible de la clandestinité pour qu'il n'y ait rien qui puisse laisser penser aux enquêteurs que tout l'entourage, qui était évidemment sous surveillance depuis longtemps, qu'on ne puisse pas déceler dans le comportement des uns ou des autres des choses qui laisseraient penser qu'ils sont en contact avec Amra. Donc ça nécessite, ça a été dit, mais que tout ça a été très préparé en amont. Ça nécessite une discipline quotidienne de chaque instant d'Amra et puis de tous ses complices. Et ça nécessite, et c'est un des points, on s'interrogeait sur ça hors antenne, mais une fidélité d'un certain nombre de ses complices dans la durée. Parce que c'est quand même plus facile de trahir le chef d'un gang de stupéfiants quand il est affaibli, quand il est recherché, quand il n'est plus tout à fait en capacité d'être le chef de son réseau. On a vu que même en prison, ça restait le patron.
Il commanditait des opérations.
Mais là, il avait quand même des moyens de communication qui étaient beaucoup moins importants pour autant qu'il en ait conservé.
Cette fidélité, c'est effectivement important. Et ce que vous dites très précisément sur la discipline, parce qu'effectivement, j'imagine, pas sous votre contrôle à tous, mais que tous ses proches ont été mis sur écoute, archi-surveillés, on suit tout.
Évidemment.
Et personne n'a parlé, personne ne s'est trahi.
Alors que les proches soient sur écoute, ça c'était une évidence. Je pense que les proches en avaient parfaitement conscience. Donc évidemment que l'enjeu il n'est pas sur les proches, les membres de la famille. En revanche, ce qui est très étonnant dans ce dossier, c'est que sur les dossiers de trafic de stupéfiants, il n'y a pas de grande fidélité dans les équipes. C'est pas la bonne camaraderie. Dans les dossiers de trafic de stupéfiants, les enquêtes démarrent très souvent sur un renseignement anonyme. Renseignement anonyme qui est donné généralement par l'équipe d'en face ou par un membre de l'équipe qui essaye de récupérer le territoire. Et donc, je voulais, la trahison dans les trafics de stupéfiants, c'est presque la colonne vertébrale du principe des trafics. Et donc là, ce qui est très étonnant, ce qui est presque choquant, c'est qu'il a une fidélité de certaines personnes à l'extérieur qui continuent de l'aider, alors qu'on est dans l'environnement d'un trafic de stupéfiants, qu'on est en plus face à quelqu'un qui a pas beaucoup d'honneur, puisqu'il est connu dans le milieu pour procéder à des carottages, c'est-à-dire organiser des fausses livraisons de stupéfiants et les récupérer lui-même alors qu'il a encaissé l'argent entre-temps. Donc, si vous voulez, il a des ennemis de l'intérieur, il est pris en étau par les forces de l'ordre à l'extérieur, et dans tout ça, entre les gens qui lui veulent du mal dans le milieu, plus les personnes qui le recherchent, l'institution judiciaire, on arrive quand même à trouver quelques personnes qui l'aident, qui continuent à l'aider, alors que finalement, si vous voulez, il a plus qu'une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est quelqu'un qui, tôt ou tard, va être amené à être traduit devant la justice, et donc ça, c'est très étonnant.
Justement, qu'est-ce qui va se passer là pour lui? Il est à Bucarest, il y a des procédures qui vont s'enclencher, à quelle échéance il peut revenir en France?
Là, c'est très simple, il y a un mandat d'arrêt européen qui a été émis, donc il y a une procédure d'extradition qui va avoir lieu de la Roumanie vers la France. Et là, il y a deux possibilités, c'est extrêmement simple. Soit M. Amra accepte de venir en France et d'être extradé, soit il refuse d'être extradé au motif, il y a un des motifs qui est toujours privilégié, que les conditions de détention en France sont telles que on n'accepte pas d'être extradé, mais je suis pas sûr que les conditions en Roumanie soient bien meilleures. Donc voilà, en tout état de cause, il a la possibilité de contester son extradition. S'il la conteste pas dans les jours qui viennent, il va arriver en France très rapidement. On parle de quelques jours, 2, 5, 6, 7, 8, 10 jours. Et si jamais il conteste son extradition, ça ne pourra excéder 2 mois. Donc là, si vous voulez, il sera amené en France entre quelques jours et 2 mois grand maximum. Mais vu la pression qu'il y a en France, vu la pression qu'il y a sur l'État roumain aussi, je pense que ça ira très très vite.
Oui, puis il va se passer quelque chose, c'est la fin de son business, parce que autant quand il était encore en prison, mais c'était avant que Gérald Darmanin soit garde des Sceaux, il pouvait continuer à gérer son business. Là, quand il va revenir en France, il va être dans un isolement tel. Donc il y a une succession à prendre. Ça va être aussi du point de vue policier et de la lutte contre le trafic de drogue, de voir qui va succéder à Amra.
Par contre, il va y avoir un élément très important. Ce qui risque de retarder son extradition, c'est les mesures de sécurité qu'il va falloir mettre en place pour l'extrader de la Roumanie vers la France, de la France vers le juge d'instruction et du juge du bureau du juge d'instruction vers le centre de détention. Et ça, à mon avis, ça va demander une logistique qui va retarder un peu les choses, parce qu'il va falloir qu'il voyage presque isolément. Peut-être qu'il va y avoir la mise en place d'un avion spécial. Enfin, ça va demander beaucoup de logistique.
Et on le met où?
Non, mais ça, justement, c'est la question fondamentale. C'est bon, le rapatriement, enfin, l'extradition, c'est une question de temps. Il peut faire ce qu'il veut, il peut retarder tant qu'il veut, il reviendra. Ça, c'est clair. Et tant mieux pour les familles des victimes. Effectivement, il y a un problème logistique qui va se poser, parce qu'il faudrait pas recommencer les mêmes erreurs. Quel que soit le ministre qui sera en place ou qui ait été en place, on a tous fait le constat, on le fait depuis des années, que c'est un petit peu la foire dans les maisons d'arrêt. Il va falloir que ça cesse, ça, clairement.
Et là, est-ce qu'on a une prison où on peut le mettre, où on est certain, où on a tous les moyens?
Ah, ben, si. Alors,
si on veut, on le met à
l'institution. Il y a quand même des prisons très sécurisées. Oui. Donc les maisons centrales, qu'on appelle centrales, il y en a un peu moins d'une dizaine pour les détenus qui purgent des peines longues, souvent dangereux. Et puis dans ce qu'on appelle des centres de détention, c'est-à-dire les prisons modernes de 500-600 places, vous avez différentes parties dans les prisons, dont une dite de centrale. Pour avoir visité souvent ces endroits, c'est pas très chaleureux, hein, on ne s'y sent pas très très bien. Et lui sera particulièrement surveillé, donc il sera mis dans un endroit où sans doute il n'aura pas de voisins de cellule, il fera l'objet d'une surveillance permanente, il ira vraisemblablement en promenade seul. Enfin, on peut faire confiance à l'institution judiciaire et à l'administration pénitentiaire pour que toutes les précautions soient...
Les moyens vont être...
Lui et les autres.
Mais c'est vrai que pour être en centrale, il faut être condamné définitivement. Donc c'est vrai que là... Mais il va inaugurer Amra, puisque au fond, c'est lui qui a fait changer la justice d'univers par rapport au narcotrafic. Puisqu'il y a eu un concours de circonstances de calendrier, il s'est évadé quasiment la semaine où la commission d'enquête du Sénat, après avoir entendu des cris d'alarme des magistrats, des policiers sur le narcotrafic, a inauguré, au fond, on a changé d'univers, on a changé de monde cette semaine-là. Et aujourd'hui, Gérald Darmanin est garde des Sceaux. Sa priorité, c'est justement de pouvoir créer, parce que Amra, quand on a découvert qu'il s'était évadé, on a aussi découvert qu'il avait téléguidé un assassinat depuis sa cellule de la prison de la Santé. Donc, on a changé d'univers depuis Amra. Vraisemblablement, Gérald Darmanin le mettra, lui et ses complices, dans des conditions d'isolement parfait.
Alors justement, puisqu'on parle de Gérald Darmanin, on vient de se procurer une lettre qu'il a envoyée aux agents pénitentiaires à propos de ça. Il dit, je vous le cite, « L'arrestation de Mohamed Amra marque un grand jour pour la République, pour son autorité, pour ses représentants dont vous êtes. Dans quelques jours, je proposerai à l'Assemblée nationale qu'un nouveau régime de détention soit instauré. Voilà. » afin que jamais plus une autre affaire Amra ne soit possible.
Il y aura une jurisprudence Amra. Un grand merci à vous tous d'être venus sur le plateau d'Affaires Suivantes. C'était passionnant de décrypter cette actualité avec vous. Laurent, évidemment, reste avec moi.